tout le monde. Les enfants peuvent aller rejoindre leur groupe. S'il y a des enfants, je vois quelques enfants. Sylvie aussi peut partir. Bonjour à tous, content d'être de retour avec vous et de vous voir dans cette période d'après Pâques, avec ce beau soleil. Je me suis mis à penser au paradis. Et quand on sera au paradis, moi je compte y être, quand on sera au paradis, je suis sûr qu'on sera tous profondément conscients de deux choses, peut-être de plusieurs choses, mais de deux choses en particulier. D'une part, on sera très conscient du fait que nous ne méritons pas d'être là. On n'est pas meilleur que les autres. Que Dieu n'a pas regardé la race humaine en disant « voilà, je vais choisir les meilleurs », c'est nous. On va être là en train de se regarder en disant « qu'est-ce que je fais là ?» Je ne suis pas bon, je n'ai pas fait des choses exceptionnelles, je ne suis pas meilleur que les autres. J'étais pécheur. Qu'est-ce que tu fais là ? On sera surpris de se voir, dans un sens. Mais on sera tellement conscient que c'est seulement par la grâce de Dieu, parce que Dieu est bon envers nous, et qu'il ne nous traite pas conformément à ce que nous méritons, mais dans sa grande générosité, sa grande bonté, on sera avec lui pour toujours. Et l'autre chose dont on sera pleinement conscient, c'est que c'est la croix de Jésus, dont nous avons parlé la semaine passée, lors du Vendredi Saint, la croix de Jésus a tout accompli. Ma dette est payée, on l'a chanté. Parce que la croix de Christ est le lieu où Jésus meurt pour les pécheurs. Il a pris notre faute, nos fautes sur lui. Il a satisfait la justice de Dieu. Et parce que cette œuvre est complète, nous n'avons plus rien à payer. C'est seulement à cause de lui que nous serons là. Au ciel, il n'y aura pas d'orgueil humain. Personne ne sera là en train de se vanter et dire « voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait ça ». On sera tous humbles, mais émerveillés, épatés. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de joie, même si c'est encore loin. On ne sait pas encore jusque quand on a. Mais un jour, on sera là. Alors c'est important de penser à cela parce que nous sommes en train de commencer aujourd'hui une série dans le livre de Jacques. Et le livre de Jacques nous aide à comprendre comment vivre en tant que chrétien. Il ne va pas nous dire comment arriver au paradis. Il ne va pas nous dire ce que nous devons faire, croire en Christ, recevoir le pardon, etc. Ce n'est pas un livre sur comment être sauvé. C'est plutôt un livre sur comment vivre en étant sauvé. Comment vivre maintenant que nous savons que nous avons une place au paradis. Comment vivre avec la foi en Jésus-Christ. Il va nous aider à comprendre que nous devons vivre en tant que chrétiens avec un style de vie chrétien, avec des bonnes œuvres. Ce ne sont pas des choses qui vont nous sauver, mais ce n'est pas une option pour les chrétiens. Si nous appartenons à Christ, ben nous devons vivre pour Christ, vivre selon la parole de Christ. Cette série, on l'a intitulée « Jacques a dit ». Pas Paul Évry, mais Jacques a dit. Voilà, Jacques a dit. Connaissez le jeu, vous l'avez joué, j'avais envie de faire aujourd'hui avec les enfants. Jacques a dit, et donc c'est très simple le principe, c'est que si Jacques le dit, on ne va pas le faire, hein, mais si Jacques le dit, il faut obéir. Si Jacques ne le dit pas, alors il ne faut pas le faire. Et c'est utile parce que justement, lorsque Jacques écrit quelque chose, c'est toujours par rapport à ce qu'il faut faire. Comment nous devons obéir à Dieu ? Pas parce que Jacques le dit, évidemment, mais parce que Dieu, le Seigneur, le dit à travers Jacques. Et Jacques va nous aider particulièrement dans deux domaines, deux scénarios, si je peux dire ça comme ça. Il se peut qu'on se retrouve dans un de ces scénarios. Le premier, c'est quand on est ce qu'il appelle des hommes partagés. On a deux âmes, littéralement. On a deux envies différentes. On est moitié-moitié. On veut faire ce que Dieu veut, mais on veut aussi faire ce qu'on veut. On veut plaire à Dieu, mais on veut aussi plaire aux autres et faire ce que le monde nous demande de faire. On veut dire qu'on est chrétien, mais on ne veut pas nécessairement vivre en tant que chrétien. Et ça, c'est le partage, on est des hommes partagés. Et à travers la lettre que nous allons lire semaine après semaine, et je vous invite à revenir les prochaines semaines parce qu'on va vraiment construire sur ce qu'on va voir aujourd'hui, en voyant toutes les paroles de Jacques, il va nous aider à voir, à diagnostiquer là où nous sommes des hommes partagés. Où nous avons cette envie, un peu à moitié, plutôt qu'être entièrement dans la volonté de Dieu. Donc ça va nous aider à ne pas vivre notre foi à moitié, mais à vivre à fond. La foi et les œuvres allant dans la même direction, vivant pour Dieu. Mais ça va aussi nous aider à apprendre l'obéissance. Je suis conscient qu'on a beaucoup de jeunes chrétiens parmi nous à l'Église, et il y a des domaines dans lesquels nous savons que nous devons obéir à Dieu. Il faut lire la Bible, il faut aller à l'Église, il faut servir. Mais il y a d'autres domaines qu'on ignore qu'en fait, ça doit aussi être soumis à Dieu. On doit aussi vivre pour Dieu dans différents domaines auxquels on n'a pas vraiment pensé. Par exemple, quand on n'a pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire quand on n'a pas beaucoup d'argent? Ou quand nous sommes en difficulté, ou quand nous nous sentons tentés, qu'est-ce que Dieu veut de nous vraiment? Quelle est l'obéissance? Et c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui. Comment vivre dans les difficultés? C'est une parole à ceux qui sont éprouvés. Vous êtes éprouvés aujourd'hui. Nous passons tous par des difficultés. Et on va essayer de parler de comment nous pouvons réagir quand nous nous sentons éprouvés. Vous avez compris qu'on est dans le livre de Jacques. Et je vais lire les premiers versets. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Quand on pense à Jacques, il y a différents Jacques dans la Bible. Il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont des disciples bien connus. Il y avait un autre Jacques parmi les 12, mais on ne parle pas de celui-là. Ici, c'est un autre Jacques qui est mentionné en Marc, chapitre 6, verset 2, un demi-frère de Jésus. Il a vu Jésus grandir dans sa famille, il était donc plus jeune que Jésus. Il a grandi avec lui, il a vu Jésus partir vers un ministère, enseigner les autres, faire des miracles. Mais c'est seulement après la résurrection que Jacques est devenu vraiment croyant, elle a accepté que Jésus était le Fils de Dieu. Il l'appelle ici son Seigneur, il a vraiment mis sa confiance en lui. Jacques a eu un grand rôle, un rôle important dans l'église de Jérusalem. Mais il écrit aux tribus dispersées, par là il veut dire les 12 tribus, c'est les Juifs, donc il parle à des lecteurs juifs, mais qui sont dans différents pays de la Méditerranée, autour de la Méditerranée. Vous vous souvenez qu'à la Pentecôte, des gens étaient venus, des Juifs étaient venus de plein de nations différentes pour être à Jérusalem ce jour-là, et ils ont entendu la bonne nouvelle que Jésus était mort pour les péchés et ressuscité pour nous donner la vie. Et donc 3 000 personnes se sont converties, 3 000 personnes ont été baptisées ce jour-là et ont reçu le Saint-Esprit. Mais ces 3 000 personnes, elles n'ont pas habité à Jérusalem. Elles sont reparties dans leur pays où ils habitaient, où ils avaient un travail, etc. Ils avaient un commerce. Et c'est à ces personnes-là que Jacques pense, qui se regroupaient dans des petites églises, pour les encourager. Donc ils étaient juifs d'arrière-plan, mais ils étaient chrétiens, ils étaient passés par la foi en Jésus-Christ. Ils affirmaient qu'ils étaient chrétiens. Et c'est à eux qu'il écrit. Il se décrit comme serviteur de Jésus-Christ, parce que, comme nous, il n'était pas apôtre. Mais même si nous ne sommes pas apôtres ou enseignants, nous sommes tous serviteurs, parce que nous avons compris que Jésus est notre Seigneur. Lisons alors ce qu'il leur dit. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agit de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche au contraire se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, la fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, Il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente !» Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Regardant cela, il y a trois choses que nous devons apprendre, trois exhortations de la part de Jacques pour gérer les moments les plus difficiles de notre vie. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, éprouvés de diverses manières, qu'est-ce que nous devons faire? Il nous dit d'abord, considérez ses bienfaits. Considérez les bienfaits de l'épreuve. Alors j'ai pensé à différentes épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Ça peut être notre santé, on a vraiment mal physiquement, ou on apprend qu'on est malade, notre santé n'est pas au beau fixe. Ça peut être des pertes, on doit quitter notre logement, on doit peut-être quitter notre pays à cause d'une situation d'instabilité où on n'a plus le droit de rester. Il y a des épreuves aussi qui nous affectent dans nos difficultés relationnelles. On perd des amis, on perd peut-être un mari ou une femme. Et puis il y a différents découragements qui peuvent aussi nous atteindre dans la vie avec les soucis du quotidien ou des grandes choses qui peuvent nous arriver de tragiques dans la vie. Quand nous sommes face à ces épreuves, généralement, nous avons tous la même réponse. Nous baissons les bras et nous disons « Oh, qu'est-ce que c'est décourageant !» Je me sens mal. C'est la réaction normale. Et c'est facile dans ces circonstances de s'apitoyer de soi, sur soi, et de dire combien c'est dur. On pourrait passer un peu de temps ici à parler les uns avec les autres. Je suis sûr que dans 5 minutes, vous allez me dire ce qui vous trouble, ce qui vous pèse, ce qui est une épreuve pour vous. Et bien sûr, on comprend ça, et c'est nécessaire de pouvoir parler. Il ne faut pas se cacher et faire semblant que tout va bien. Mais on ne va pas ressentir de la joie dans l'épreuve, n'est-ce pas? On ne va pas ressentir de la joie. Et Jacques, en fait, ne nous dit pas « ressentez de la joie, expérimentez de la joie », parce que ce n'est pas possible. Il ne dit pas cela, mais « considérez comme un sujet de joie ». C'est-à-dire, on arrivera à supporter l'épreuve en n'ayant pas nécessairement une autre expérience émotionnelle, une autre réaction émotionnelle, mais en ayant une autre attitude vis-à-vis de l'épreuve. Il lui dit bien « considérer » et pas « expérimenter ». « Considérer », ça veut dire une réflexion, une attitude. Qu'en fait, on va regarder à l'épreuve et on va voir le produit de cette épreuve. Qu'est-ce que cette épreuve peut produire chez moi, chez nous, chez mon frère, chez ma sœur? La persévérance va être un beau produit de l'épreuve. On va voir ça aujourd'hui. La perfection même, parce qu'il dit que la persévérance va accomplir parfaitement sa tâche. C'est l'image de l'engrais. Je ne suis pas comme Howard qui est un très bon jardinier, mais j'ai compris que pour faire des belles fleurs, il faut de l'engrais. L'engrais n'est pas nécessairement très beau, très bon. Mais à travers l'engrais, si on met assez d'engrais sur les fleurs, il y a des belles fleurs qui poussent. Et à travers les épreuves que nous vivons, qui sont un peu comme l'engrais, qui sentent mauvais, qui sont difficiles, des belles fleurs ou des beaux produits, de beaux fruits peuvent pousser. Parce que le verset 4 nous dit « Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Lorsque Dieu nous considère, il considère qu'il y a un manquement ou des manquements chez nous. Ce ne sont pas des manquements chez lui. Lui est parfait, il justifie, il donne son esprit, il nous a accordé la rédemption, il nous a donné gratuitement la vie éternelle. Il n'y a rien qui manque chez Dieu. Dieu donne tout ce qu'il faut pour le salut. Mais il nous voit quand même comme des gens qui manquent quelque chose. Il nous manque des œuvres. Il nous manque le fruit de l'esprit, il nous manque d'être mûr et complet. On n'a pas encore cette maturité. Et donc, il veut qu'il ne nous manque rien. Il aura beaucoup besoin de beaucoup de persévérance et beaucoup de sagesse, parce que nous manquons cruellement de persévérance, de courage et de sagesse. S'il vous manque de la sagesse, dit-il au verset 5, nous devons prier. Alors, je vais essayer d'expliquer comment nous avons ce manque de sagesse. La sagesse, en fait, nous permet de voir les épreuves différemment. On est en train de parler de comment nous réagissons intérieurement, normalement, à la sagesse, mais pour réfléchir et réagir différemment, il faut que Dieu nous donne une autre attitude, une autre mentalité. Et cette mentalité-là, c'est la sagesse de Dieu. Pour voir le bienfait que la souffrance peut produire en nous. Est-ce que vous avez naturellement cette sagesse, cette perspective, cette mentalité? Ben non, vous ne l'avez pas, moi je ne l'ai pas non plus. Et donc il faut demander à Dieu. Et lorsqu'on demande à Dieu, verset 5, lorsque nous demandons à Dieu, il donne à tous simplement et sans faire de reproche. La sagesse nous sera donnée. Ça, c'est formidable. Demandez à Dieu et il donne sans reproche, sans dire, oh, mais quand même, tu devrais savoir mieux. Oh, ça fait combien de temps que tu es chrétien? Mais allez, tu n'as pas encore appris ça. Non, il ne va pas faire de reproche. Il comprend qu'on demande quelque chose et il nous le donne. Et il donne délibérément, volontairement, pleinement. Ça nous est tous arrivé, je pense, de penser à donner un cadeau à quelqu'un. C'est peut-être un collègue qui part du travail. On dit, ah, ce serait chouette de lui donner un petit cadeau de départ. Ou c'est l'anniversaire de ton cousin. Tu dis, ah oui, c'est bientôt son anniversaire. Je devrais acheter quelque chose. Je devrais lui envoyer quelque chose pour son anniversaire. Et puis on oublie. Et on dit, ah mince, c'était la semaine passée, son anniversaire. Ça m'est arrivé récemment avec mon filleul. Je dis, ah, j'ai raté son anniversaire. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se dit, ouais, parfois, j'ai pas les ressources. J'avais envie, mais j'avais juste pas les moyens. Je suis pas allé au magasin à temps. Et donc voilà, j'avais envie de lui donner un cadeau, mais il n'y avait juste pas moyen que je lui donne. Dieu n'est pas comme ça. Ça n'arrive pas à Dieu de dire, oh, j'aimerais bien te donner de la sagesse, mais en fait, j'ai pas beaucoup de sagesse à donner, ou j'ai oublié que tu avais besoin de ça. Je sais que tu avais demandé, mais en fait, j'ai complètement zappé. Excuse-moi. 2 ans plus tard, je pense à ça. Non. Quand Dieu considère qu'il nous manque de la sagesse et du courage, de la persévérance, et qu'on lui demande, Seigneur, aide-moi, j'ai vraiment besoin de ça, eh bien, il nous donnera la sagesse. Pour qu'on comprenne que les épreuves qu'il nous envoie sont des épreuves qui vont nous fortifier, vont nous apprendre à persévérer et qui vont vraiment nous faire du bien. Ça ne va pas être agréable. Mais c'est pour notre bien que Dieu le permet. C'est pour nous façonner, pour nous transformer qu'il le permet. Ces jours-ci, c'est possible d'avoir un coach sportif, un coach pour améliorer notre condition physique. Et vous avez compris que moi, je n'ai pas un coach comme ça. Mais ça existe. Et vous pouvez bénéficier d'un coach. Pourquoi? Parce que vous allez lui demander, voilà, je veux avoir un autre corps, un corps qui ressemble plutôt à quelqu'un d'autre. Et donc, qu'est-ce que je dois travailler? Comment est-ce que je dois faire? Et lui va prévoir un plan d'exercice pour toi. Il va dire, d'accord, si tu veux vraiment être musclé, athlétique, en forme, il faut que tu fasses ça autant de fois, il faut que tu... fasses... On sait bien, no pain, no gain, pas de douleur, pas de gain. Donc, il va falloir bosser, souffrir, être étiré, travailler et avoir peut-être même mal aux muscles pour arriver à la forme que le coach envisage avec nous. Mais Dieu est comme ça. Dieu est comme ce coach, sauf que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Il veut nous former à notre progrès spirituel et il va nous préparer alors un parcours d'épreuves dans cette vie. Dans l'au-delà, il n'y aura plus de souffrance, mais dans cette vie, il y a des souffrances, il y a des épreuves. Et donc, il nous prévoit une série d'épreuves qui, si nous arrivons à persévérer et à travailler à travers ces épreuves, en fait, on va avoir un autre résultat. On va devenir sage comme il le veut. On va devenir en forme comme il le veut. On va avoir du tonus spirituel. Et ça, c'est un cadeau que Dieu veut vous donner. Dieu est vraiment friand de donner à ceux qui lui demandent. Et je veux qu'on retienne cela. Tout à l'heure, on va voir que Dieu nous bénit. Il veut nous donner une bénédiction. Mais ici, je veux simplement appuyer le fait que Dieu veut nous donner généreusement ce qu'on lui demande. Pensez à comment Jésus a réagi quand on a demandé des choses. Quelqu'un, un lépreux, a dit à Jésus, « Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus dit, « Je le veux, sois pur. » Quelqu'un d'autre a dit, je ne mérite pas que tu viennes chez moi, mais dis simplement un mot et je suis sûr que mon serviteur sera guéri. Mais guéris-le. Et Jésus a dit, oui, quelle belle foi d'abord. Et puis il a dit le mot, ton serviteur sera guéri. Et il a été guéri. Jésus avait toujours envie de répondre aux demandes, aux requêtes de quiconque venait avec foi en demandant simplement, Seigneur, aide-moi. « Guéris-moi !» Et il disait souvent « Ta foi t'a sauvé. » Mais en fait, il y a des exceptions. Il y a une exception à des personnes qui ont demandé quelque chose à Jésus et Jésus ne leur a pas donné. Vous savez qui c'est ? Ce sont des gens qui ont dit « Ouais, on n'est pas sûr. T'as pas vraiment fait assez. Je suis pas sûr que tu es le Messie. Alors fais un signe. » Ils sont aussi venus avec une requête. À Jésus. Jésus, fais un signe, montre-nous quelque chose pour qu'on croie en toi. Et si ton signe est assez impressionnant, alors on croira en toi. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils n'ont pas cru. Ils étaient dubitatifs. Et Jésus a dit, une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Mais aucun signe ne sera donné, à part le signe de Jonas. Voyez-vous, ils n'ont pas cru. Ils étaient dubitatifs. Et si c'est notre attitude, verset 6, alors Dieu ne va pas nous donner quelque chose. Verset 6, qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si nous doutons, si nous sommes instables, nous disons « Ouais, je ne pense pas que Dieu a vraiment la puissance, on ne va pas vraiment demander ». On ne va pas vraiment avoir envie, on sera instable, partagé, pas schizophrène, mais partagé, parce qu'on voudra une chose, on dira « Oui, Seigneur, envoie-moi de la sagesse », on n'a pas vraiment envie d'avoir de la sagesse. On sera comme une vague. C'est une belle image, n'est-ce pas, que Jacques utilise là, parce qu'on a tous vu des vagues. J'étais en France récemment, on était à la mer, et on voit la mer qui monte, et à un moment, la vague est là, et puis ça recule, et là, ça va là-bas. Et puis c'est de retour là-bas, et puis c'est de retour là-bas. Et on est comme ça, malheureusement, en tant que chrétien. Parfois, on est tout feu, tout flamme. Oui, je veux avancer avec le Seigneur, et puis chut, on est emporté par le monde. Et puis on est de retour, on dit, ouais, c'est dimanche, j'aime le Seigneur. Et puis c'est vendredi, et je vais avec le monde, et je suis entraîné par mes mauvais désirs. On est partagé. Et les amis, on doit développer une autre stabilité, une constance, pour être les mêmes. Et nous devons en fait demander à Dieu de l'unité, que nous soyons unis. Pas entre nous, bien sûr nous devons être unis entre nous, en communauté, mais unis intérieurement. Que tout dans ma vie aille dans la même direction. Mes sentiments et mes actes. Ce que je ressens pour Dieu et ce que je fais pour Dieu. Où mes paroles et mes relations doivent être vécues pour Dieu. Mes aspirations, mon comportement, tout doit être aligné pour plaire à Dieu, pour avancer avec Dieu, et pas être une chose pour Dieu, je dis quelque chose, je chante quelque chose, et une chose pour moi, ce que je ressens et ce que je vis et les relations que je poursuis. Donc tout d'abord, nous devons apprendre à voir nos épreuves comme un sujet de joie. Car en passant par l'épreuve, nous pouvons faire des progrès et demander à Dieu la sagesse. Un don que Dieu veut nous faire. Deuxièmement, Jacques nous encourage à considérer l'avenir. Je vais relire les versets 9 et 10. Si, que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement. Alors ça, c'est un peu étrange. On pourrait penser qu'il se moque de nous, là, qu'il dit tout pour contrarier. Ce serait plus normal de dire que le pauvre se tire fierté de son abaissement. Oh, que je suis pauvre, que je suis abaissé, je n'ai plus rien, etc. Je suis fier de ne plus rien avoir devant Dieu. Et que le riche soit fier de son élévation. Voilà, j'ai une position importante, j'ai beaucoup, beaucoup de fric, merci Seigneur, j'ai reçu ça dans ma vie. Mais en fait, il dit le contraire. Le pauvre qui est élevé et le riche qui est abaissé. Et on se dit, mais attends, mais Jacques, tu es en train de nier la réalité là. Ça semble être du bouddhisme plutôt que du christianisme, parce que le bouddhisme nie la souffrance. Et dit non, 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 il n'y a pas de souffrance. Ça ne fait pas mal. C'est juste une illusion. Tellement le bouddhisme est cruel. Mais la Bible ne nie pas la réalité, ne nie jamais la réalité. La Bible ne nie pas la réalité de la souffrance et le mal que ça nous fait de souffrir. Mais néanmoins, Jacques et la Bible regardent plus loin. Jacques a dit, considérez l'avenir. Considérez l'avenir et vous verrez les choses différemment. Les circonstances de la vie présente ne sont pas permanentes, elles ne sont pas éternelles. Elles semblent être tout. On est obnubilé par notre problème. On voit juste le problème maintenant. Mais il faut voir au-delà. Parce qu'après, les choses vont changer. Et Jacques nous dit, considère l'avenir, à la fin de la vie. Cet homme riche, il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Comme ces pâquerettes que vous cueillez, que vous présentez à maman, et puis une demi-heure plus tard, elle est fanée, elle est morte. La fleur, pas maman. Mais ça s'est fané. Ça ne dure pas. Mais c'est comme ça la gloire de l'homme. Ça va sûrement se passer. Verset 11, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. L'homme qui commence une firme et il devient quelque chose et il nomme cette firme après lui, c'est Dupont, c'est chez Dupont, c'est Dupont Entreprise. Et puis il a des fils et c'est Dupont et fils et c'est une grande entreprise. Eh bien, cet homme-là, un jour, il doit mourir et il ne reste plus que ses fils et l'entreprise passe à quelqu'un d'autre. C'est fini tout ça, parce que ça va passer. Ça doit nous informer, nous affecter. Parce que les épreuves de la vie et la mort nous enlèveront nos richesses présentes. Mais nous n'allons pas tout perdre, parce que cette vie n'est pas tout. Nous ne sommes pas là pour poursuivre le rêve américain ou le rêve belge. Mettez de l'argent de côté et puis vous aurez une belle retraite, vous allez pouvoir profiter de la vie. Amassez un maximum pour vivre comme vous voulez. Non, Jésus a dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. À quoi rime la vie? Ce n'est pas avoir un maximum de pognon. Ce n'est pas ça le sens de la vie. Si par contre, vous regardez votre compte en banque et vous dites, oh, il n'y a pas beaucoup là. Et si vous dites, ben, je ne suis rien parce que moi je n'ai pas beaucoup d'argent, gardons en tête que Dieu nous élève. L'avenir pour le pauvre est décrit au chapitre 2, verset 5 de Jacques. Jacques 2, verset 5. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Vous voyez cela? Nous pouvons encore supporter une vie simple parce que Dieu ne nous méprise pas. Peut-être qu'on n'a rien selon le monde, que le monde se moque de notre voiture en disant hein, tu roules dans ça, ou méprise notre maison parce que ce n'est pas une maison extraordinaire. Mais tu sais, tu ne l'auras pas toujours. Mais nous sommes héritiers du grand roi. Notre pauvreté n'est pas notre état final. Et si par contre nous sommes riches, nous devons aussi entendre ce que dit Jacques, que notre vie présente n'est pas tout. Nous allons perdre notre maison, nous allons perdre notre voiture. Mais nous pouvons déjà profiter de cela pour le mettre au service de Dieu maintenant, parce que nous savons que nous l'avons pour une période. Et nous devons faire fructifier les ressources qu'il nous a données pour l'éternité. Souvenons-nous que notre beauté et notre entreprise disparaîtra. Et ça fait peur à notre contemporain. Mais nous sommes au clair avec la vérité. Si nous perdons des choses ici, nous ne perdons rien là-haut. Donc dans les épreuves, nous devons commencer à voir plus loin, à voir l'éternité, et à revoir alors comment nous sentons par rapport à l'épreuve présente. Alors qu'est-ce que ça nous encourage à faire? Troisièmement, ayant appris que nous devons voir au-delà des épreuves, il dit, versets 12 à 15, « Tenez bon ». Le verset 12, en fait, est la clé de toute cette section. Je vais relire le verset 12. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Tenir bon dans l'épreuve afin de recevoir la bénédiction. Il dit « heureux ». Heureux l'homme ou heureux la femme. Dieu veut bénir. Je sais que c'est difficile de ressentir ça quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la perte, on se dit mais est-ce que Dieu est vraiment bon? Mais Dieu dit heureux. Dieu a envie de nous bénir à la fin, après tout, après avoir tenu bon. Et donc même si l'épreuve est longue, nous devons considérer que Dieu a une récompense pour nous. Et cette récompense est individuelle. Il dit « heureux l'homme », pas « heureux les hommes ». Parce qu'il veut nous éclairer sur le fait que c'est chaque personne, chaque chrétien, chaque chrétienne qui doit réagir à ça, s'engager avec Dieu, tenir bon dans la foi. Et qu'on ne peut pas compter sur les autres, il n'y a pas des entrées groupées dans le ciel. Ce n'est pas comme un Walibi, si vous êtes 10, c'est bon. Non, vous entrez au ciel individuellement. Parce que vous avez mis votre foi en Christ. Et si vous n'avez pas mis votre foi en Christ, vous n'y entrerez pas. C'est individuel, la récompense. Mais ce que ce verset nous montre, c'est que ça vaut la peine. Il utilise l'image d'une couronne, et c'est le prix des athlètes à l'époque. C'était une couronne qu'on mettait sur eux. Ce n'était pas des médailles qu'ils avaient en Grèce à l'époque, c'était une couronne qu'on mettait sur le cheveu pour leur dire qu'ils étaient des gagnants, des champions. Et cette couronne-là, elle est couronne de vie, parce que nous aurons la vie éternelle. C'est le Seigneur qui donnera cela. C'est personnel, ce n'est pas une récompense automatique, mais c'est Dieu qui donne à ceux qui l'aiment. Nous l'aimons, nous avons envie d'être avec lui, et nous persévérons pour lui. Alors il, personnellement, donnera cette récompense. Alors ça nous assure que ça vaut la peine. Aujourd'hui, c'est bien possible qu'on se dise c'est difficile de persévérer, mais il faut persévérer. Et la persévérance va main dans la main avec la promesse. Par la promesse de la grâce de Dieu, nous persévérons. Dieu le rend possible, mais le moyen est la persévérance. Alors, tout ça est formidable. Mais peut-être qu'en entendant tout ça, tu dis mais ça n'arrange pas les choses pour le présent. Ce qui te trouble aujourd'hui est un sentiment énorme d'être tenté. Parce que généralement, lorsque nous sommes sous pression, lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes affaiblis, on n'est plus tenté, on est tenté davantage que d'habitude. Parce qu'on se dit, avec ce que j'ai perdu, peut-être que le péché qui m'est familier va m'apporter un certain plaisir, va m'aider à m'échapper de la misère dans laquelle je suis, dans laquelle je me sens profondément. Et si tu sens que tu vas craquer, peut-être que cette relation illégitime ou profiter de la malhonnêteté est d'autant plus tentant parce que tu veux te sortir de l'épreuve. Tu sais que tu dois persévérer, mais en même temps tu dis c'est juste trop tentant. Et tu as envie de baisser les bras. Oscar Wilde était un écrivain irlandais qui écrivait des pièces de théâtre, ce n'était pas un chrétien. Et lui, un de ses personnages dans une pièce de théâtre, dit « Le seul moyen d'éliminer la tentation, c'est d'y succomber. » Le seul moyen d'échapper à la tentation, c'est d'y succomber. Mais ce n'est pas vrai. Si tu succombes à la tentation, en fait, la prochaine fois, tu seras encore plus faible et la tentation sera encore plus forte. Mais si tu résistes à la tentation, c'est vrai que la tentation demeure, jour après jour. Et donc on doit continuer à résister. L'appel de Dieu, ce n'est pas simplement de dire un jour je crois en Christ, et j'obéis à Christ, Mais le lendemain et le jour après, de continuer sur le long terme. La persévérance, c'est prendre les bonnes décisions jour après jour sur la durée et avancer avec Dieu. Demeurer, persévérer et tenir bon. Mais peut-être qu'on dit ce qu'il dit au verset 13. C'est Dieu qui me tente. Je ne pense pas qu'on dit ça vraiment dans la tentation. Mais parfois, on le dit après la tentation, après avoir chuté, après avoir péché. On dit, ouais, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Il m'a mis dans de telles circonstances que je n'avais pas trop le choix. Et il sait quand même de quoi je suis capable. Et là, voilà, j'étais juste pas, c'était pas apte à résister à cette tentation-là. Peut-être qu'on accuse nos circonstances. On dit comme, ah non, mais c'est la femme que tu as placée à côté de moi. C'est à cause d'elle que je suis comme ça. Ou c'est parce que mes enfants sont tellement énervants que je me suis fâché sur eux. Je me souviens d'un enfant qui était mal élevé, qui se comportait mal, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Et il m'a dit, mais c'est parce que les autres sont tellement énervants. Il ne voulait pas reconnaître la faute chez lui, c'était la faute des autres. Et en fait, c'est une façon de dire, Dieu m'a tenté. C'est Dieu qui m'a mis là, devant une situation où j'étais faible. Dieu m'a mis devant une tentation qui était trop forte pour moi. Je n'ai pas pu résister à ça. C'est la faute à Dieu. Non, ce n'est pas la faute à Dieu. On ne peut pas accuser le déterminisme génétique. Je suis comme ça, c'est mes gènes. On ne peut pas accuser Dieu en disant Dieu m'a fait comme ça. On ne peut pas dire que c'est la faute de nos parents de nous avoir éduqués comme ça. Non, nous sommes responsables. Et si nous chutons, ce n'est pas Dieu qui nous tente, il ne nous tente jamais. Mais c'est parce que, verset 14, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. On a suivi le diable, et ce n'est pas la faute du diable. Quelque part, l'attention est sur nous. Si nous péchons, c'est notre faute. Ce n'est pas la faute à nos parents. Ce n'est pas la faute à notre femme. Ce n'est pas la faute de notre frère. C'est nos désirs mauvais qui nous ont entraînés vers la tentation. Alors bien sûr, la tentation n'est pas le péché. Une idée mentale, une image mentale peut nous venir dans notre tête, une affreuse pensée, une envie mauvaise. Et il faut juste éteindre ça, il faut couper ça directement quand on a cette tentation qui nous vient en tête. La tentation n'est pas un péché. Mais si c'est encouragé, verset 15, ça donne naissance au péché. Encouragé dans le sens de tiens, oui, ce serait intéressant de faire ça. Ah ouais, si je faisais ça, alors qu'est-ce qu'il ferait? Je pourrais clouer le bec. Ou je pourrais m'enivrer et oublier. C'est ça quand on entretient la pensée du péché qui nous entraîne vers le péché. Mais si on pêche, le résultat est la mort. Cette mort, c'est celle que Adam a amenée dans le monde par ses désirs. En étant faible devant la tentation, il a suivi ses désirs, il a donné naissance au péché, et puis il a entraîné la mort pour toute l'humanité. C'est la mort aussi que Jésus a portée, notre mort, à notre place, lorsqu'il est mort à la croix. Ce serait fou alors de retourner vers un péché qui conduit à la mort. Et donc nous avons un choix. La réaction que nous devons avoir est de rester obéissant, de résister à la tentation et de persévérer jusqu'au bout. Continuer malgré la tentation, continuer malgré l'épreuve par la foi. La réaction à éviter est la plainte ou de s'excuser en disant « je suis comme ça, que Dieu m'a tenté » et de poursuivre le péché. Nous sommes appelés à nous battre. À nous battre contre le péché en nous, à mettre le péché à mort, plutôt que de nous laisser tuer et entraîner à la mort par le péché. C'est une bataille qui n'est pas de courte durée. C'est une bataille en fait qui dure toute notre vie de chrétien, jusqu'au jour où Jésus revient. Mais n'oublions pas le résultat ultime. Qu'est-ce qui est à la fin de cette bataille? Qu'est-ce qui est à la fin de cette persévérance? Verset 4. Quand la persévérance aura accompli son œuvre, alors vous serez parfaitement qualifiés, sans défaut. Il ne vous manquera rien. Verset 12. Heureux l'homme, la femme, qui tient bon face à la tentation. C'est cela qui doit nous remplir de joie. Pas les circonstances et les épreuves et les difficultés de cette vie, mais le résultat que Dieu est capable de produire en nous. Si nous nous attachons en lui et si nous lui demandons, et il est prêt à nous accorder sa grâce, sa sagesse et tout ce qu'il nous manque. Alors prions. Prie avec moi. Notre Père Céleste, nous voulons te prier en sachant que tu es bon, que tu as à cœur notre piété, notre vie avec toi. Tu ne nous laisses pas mous, paresseux, inertes. Tu prépares un parcours de combattant pour nous. Et c'est vrai que ce parcours est difficile et parfois nous avons du mal, nous avons de la peine. Mais nous te prions, Seigneur, que tu nous rendes courageux. Rends-nous confiance aussi, parce que tu es un Dieu de grâce, tu vas nous accompagner, tu ne vas pas nous laisser là. Et par ton esprit, nous allons pouvoir produire le fruit de l'esprit, la persévérance, la fidélité dans l'épreuve que tu veux voir chez nous. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, nous voulons compter sur ta bonté, que tu es prêt à nous donner ce qui nous manque, cette sagesse qui nous manque, la persévérance qui nous manque, et aussi que tu veux notre bonheur, que tu veux nous bénir, et que ce que tu as prévu pour nous, la sainteté, la justice, est quelque chose de bon pour nous, de meilleur pour nous. Alors encourage-nous, Seigneur, et aide-nous, là où nous sommes faibles, à pouvoir vaincre le péché et la tentation. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer par un chant qui rappelle qui nous sommes. En toi, je sais qui je suis. Et c'est aussi le moment pour nos offrandes. Il y a différents moyens de donner nos dons et nos offrandes. Il y a les paniers qui vont circuler. Merci, Georges. Il y a aussi le lecteur de cartes au fond de la salle. Si vous avez envie de juste faire un paiement par carte, c'est tout à fait possible. Vous mettez le montant que vous voulez donner. Vous scannez votre carte, vous mettez votre code PIN. Et c'est un paiement qui va directement vers l'Église. Alors chantons debout, tous ensemble, cette parole.